j'avais une discussion avec une amie qui me disait faudrait presque comme un permis de conduire, un permis d'utiliser l'intelligence artificielle, comme ça, qui nous permettrait de connaître les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne et d'en connaître les limites.
Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise? Par où commencer? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Olivier Vulvéric à l'agence Octo Technologies Nord à Lille. Bonjour Olivier.
Bonjour Manuel.
Donc tu es le CTO, donc le Chief Technical Officer et le co-responsable de l'agence. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous présenter également Octo Technologies?
Eh bien, bien sûr. Alors, donc, je suis chez Octo depuis 6 ans et demi, depuis la création de cette agence lilloise. Octo Technologies, on est une société de conseil et de réalisation. Donc, on accompagne nos clients à être meilleurs dans ce qu'ils font grâce au numérique. Donc, on est un peu une sorte d'ESN avec une particularité, c'est que nous, on aime bien, quand on arrive chez les clients, on aime bien partir. Ça veut dire qu'on a terminé notre travail, donc on a une finalité. Et mon rôle dans le dispositif, c'est de donner une orientation technologique à suivre qui permet de mieux adresser les problématiques de nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on met en place nos orientations technologiques, notre offre de valeur qui soit en phase avec notre marché pour répondre efficacement aux besoins de nos clients.
Alors en ce moment, on parle beaucoup de data et d'IA et en préparant cet épisode, on s'est dit que ce serait intéressant pour nos auditeurs de parler de RAG. On en avait parlé un petit peu avec Laurent Daudet il y a quelques épisodes. Donc est-ce que déjà tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'un RAG et puis quels sont les impacts en fait de cette technologie-là dans les entreprises que vous accompagnez?
Bien sûr. Alors, le RAG, c'est un système qui vient en complément des systèmes d'IA génératif, notamment des large language models.
Comme ChatGPT,
Gemini et d'autres. Mistral AI, qui a son modèle. Donc, en gros, les modèles de génération d'intelligence artificielle génèrent du contenu texte par texte, on va dire token par token. Ouais. Donc, on lui donne des éléments d'entrée et il génère des éléments de sortie par rapport à une base de connaissances qu'il a récupérée d'Internet, qu'il a apprise. Donc, c'est le P du GPT, le pre-trained.
D'accord.
Donc, tout ça, ça a appris sur une base de connaissances d'Internet. Maintenant, si on veut interroger une base documentaire qui nous est propre, qui est inconnue de ce système ChatGPT, on peut utiliser en amont ce qu'on appelle un RAG, un système de RAG, qui va permettre d'extraire, de faire un retrieval des documents que nous avons en propre.
D'accord.
De générer un pré-prompt, c'est-à-dire qu'il va commencer à générer un système, un texte, un ensemble de tokens par rapport à nos documents qui va compléter le prompt. Et quand on va poser une question, il va aller chercher d'une part dans sa base de connaissances pour comprendre la question et d'autre part dans le prompt qu'on lui aurait injecté via notre RAG auparavant.
C'est une espèce de consultant qui connaîtrait un peu tout de ce qui existe dans le monde et qui en plus aurait lu toute la documentation interne de l'entreprise finalement.
C'est exactement ça, il parle tout le vocabulaire d'Internet et il connaît toute la documentation de l'entreprise.
D'accord, et donc aujourd'hui on en parle beaucoup effectivement puisque c'est un moyen pour les entreprises d'accéder plus facilement à leurs informations internes. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager quelques exemples précis d'utilisation que tu as pu tester ou que vous avez pu voir chez Octo Technologies?
Alors, dans les exemples d'utilisation, on a par exemple des clients qui vont avoir besoin d'interroger leur catalogue produit ou leur base de connaissances. Donc, leur catalogue produit, ils font un RAG, ils essayent de rendre interrogeable en représentation mathématique leur catalogue de produits pour être capable de l'injecter dans le moteur de ChatGPT ou un autre système LLM et lui demander de dire tiens, si je te pose une question en disant par exemple je veux changer mes interrupteurs de maison, je dispose d'un courant de 120 volts avec un différentiel 16 ampères, qu'est-ce que tu peux me proposer comme solution dans le catalogue qui va permettre de compléter ça?
D'accord, donc par exemple sur un exemple d'un équipementier de matériel électrique, quand il y a un client technicien qui doit faire intervention qui vient poser des questions au comptoir, ça permet d'avoir des réponses très précises par rapport à un besoin qui est exprimé de manière naturelle.
Ouais, exactement. Les autres sujets sont l'interrogation de la base documentaire. Donc, on a même un sujet en propre dans notre société de conseil. On a une grosse base documentaire parce qu'on a 24 ans d'existence. On est en train d'étudier l'effet d'un système de RAG pour pouvoir interroger notre propre base documentaire en disant un client, un partenaire vient avec une problématique. On va interroger notre base de documentaire pour essayer de cibler les solutions qui sont déjà apportées, qui sont en général dans la tête des gens. Ouais. Mais là, on pourrait, tout le monde y aurait accès de, sans aller taper sur l'épaule du voisin en disant
bien sûr.
Qu'est-ce que tu me proposes ?
Alors, quand on parle d'ORAG, moi j'entends souvent beaucoup de gens qui me disent oui, mais du coup, il n'y a plus besoin d'experts, il n'y a plus besoin de consultants, ça va remplacer tout le monde. Est-ce que tu peux donner un peu ton regard sur cette question-là ?
Ah, c'est intéressant. J'avais une discussion avec un collègue justement la semaine dernière. Il disait que le risque pour lui, c'était justement qu'on perde l'expertise globalement avec les RAG. Donc on a toujours besoin d'experts. Alors les experts, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a les experts qui vont concevoir le système. Je vais les mettre à part. Et après, il y a les gens qui utilisent. Et en fait, ce système de RAG là, il va nous donner un niveau, il va nous apporter un niveau d'expertise qu'on récupérait chez l'humain d'habitude. Et le risque, c'est qu'au fur et à mesure de l'utilisation de ces RAG, on perde cette expertise. Je vais illustrer mon propos. Aujourd'hui, on a des calculatrices qui nous permettent de calculer des racines carrées.
Oui.
Et aujourd'hui, l'expertise d'extraire une racine carrée, on l'a perdue. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. On a cultivé d'autres expertises. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apprendre à extraire une racine carrée. On cultive d'autres expertises. Donc, cette base d'expertise d'aujourd'hui, on va avoir tendance à la perdre et on la remplacera par autre chose qui va nous rendre plus efficace.
D'un autre côté, on sait que les LLM parfois font des erreurs. Tous les systèmes d'intelligence artificielle font des erreurs. Il y a donc besoin d'experts humains qui seuls peuvent trouver les bonnes réponses. Et puis, on sait également que ça ne sait pas faire des déductions logiques complexes. Donc peut-être il y a quand même encore beaucoup de place
pour les experts. Ça reste des assistants. Aujourd'hui, ça reste des choses qu'on... J'avais une discussion avec une amie qui me disait il faudrait presque comme un permis de conduire, un permis d'utiliser l'intelligence artificielle comme ça, qui nous permettrait de connaître les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne et d'en connaître les limites.
D'accord, Mais tout à l'heure, en préparant également cet épisode, tu nous parlais de cas d'usage pour les développeurs informatiques.
Oui. Oui, ça c'est le... Alors bon, bien évidemment, il y a eu toute la vague de GitHub Copilot, donc pas du Copilot, il y a une ambiguïté de langage, hein. il y a deux Copilots sur le marché.
Le Copilot de Microsoft et le Copilot de GitHub qui n'ont rien à voir.
Donc qui permet aux développeurs d'être plus efficaces. Et donc ça a aidé beaucoup les développeurs.
Et ça fait quoi très concrètement, peut-être pour expliquer à nos auditeurs ?
De la même manière, aujourd'hui un Large Language Model, il génère du langage humain. Donc on
du
lui
texte.
Donne du texte, on lui donne une phrase en français et il continue la phrase mot par mot en français. Mais on peut faire la même chose avec un langage informatique. Avec du code. Donc c'est un langage également, on lui donne le début de code et il est capable de le compléter, voire même on lui donne une explication, il est capable de nous donner le code, il est capable de le commenter, il est capable de nous générer une suite de tests.
Donc on peut lui dire crée-moi une fonction dans tel langage qui va avoir telle entrée, telle sortie et qui va calculer ce type de choses.
Tout à fait. Alors le risque, si je rebondis sur l'exemple qu'on avait au niveau de l'expertise, c'est qu'en fonction des langages, on peut avoir un œil critique, mais pour des fonctions très commoditaires, on peut tout à fait se retrouver avec... j'ai un exemple très précis. J'ai fait un développement une fois et avec une technologie qui est très particulière qui s'appelle du WebGL, qui permet d'adresser les processeurs graphiques. C'est un monde que je ne connais absolument pas.
C'est très complexe, il y a une certaine expertise à avoir.
J'ai demandé à l'assistant de générer le code. Le code a fonctionné. Je l'ai utilisé tel quel.
Mais
je n'ai aucune expertise sur le WebGL.
On n'est pas sûr qu'il fait exactement ce qu'on veut dans toutes les circonstances.
Alors après, il faut faire une suite de tests, etc. Et je l'ai mis dans un environnement contraint et non risqué. Mais si tout le monde fait comme moi, on a perdu l'expertise WebGL.
D'accord. Donc il ne faut pas faire ça. Et dans l'autre sens, pour documenter le code, c'est peut-être aussi très utile.
Alors pour documenter le code, c'est très utile. Et pour analyser du code existant, parce que à partir du moment où on met un code en production, il devient, ça devient du legacy, du patrimoine dont on dispose. Ouais. Et en tant que société de conseil, on est souvent amené à aider les gens à analyser leur patrimoine de code et à travailler.
Plus personne ne se souvient ce que ça fait.
Voilà,
et donc il faut
retrouver. Les gens sont partis, ont changé, sont des vieilles technologies. Et là, par contre, on a un système qui devient très utile parce que le système LLM nous permet d'analyser toute cette base de code, nous documente le code, nous explique ce qu'il fait, ou en tout cas nous guide. Donc de la même manière qu'il peut halluciner, on ne va pas prendre pour argent comptant, écouter les yeux fermés tout ce qu'il va nous donner. Par contre, ça nous donne une bonne indication sur à quoi pourrait servir le code, etc.
D'accord. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications sur les RAG et sur les LLM. Et ça nous amène du coup à notre première question.
Vous avez un message.
Bonjour Olivier, j'avais une question. Comment on vérifie que les informations qui sont données par le RAG sont les bonnes ? Et comment on vérifie qu'elles respectent les droits d'accès aux informations de chacun ?
Donc effectivement, oui, c'est mettre un RAG, c'est très puissant visiblement, mais comment on garantit une forme de sécurité d'usage en interne sur les différentes questions qui ont été posées là?
Alors, on rentre dans un système de production d'assets numériques, donc on va avoir tout un pipeline d'étapes qu'on va faire pour faire la récupération des documents, et on va avoir un routage qui va nous dire, bah, je peux accéder à tel document, je peux pas accéder à tel document. Donc
des contrats confidentiels, des fiches de paye, des contrats de travail,
voilà,
on les expose
simplement pas au RAG, on fait éventuellement plusieurs RAG, et dans ces cas-là, on va rentrer dans un système de routage où, comme je l'ai dit au début, le RAG, c'est un système de génération de complément du prompt.
Oui.
Bah là, on va compléter le prompt en fonction de la demande, avec un prompt qui est autorisé ou un prompt qui n'est pas autorisé.
D'accord. Et du coup, deuxième aspect de la question aussi, c'est comment on garantit une forme d'exactitude des réponses. C'est-à-dire, on a tous entendu parler d'exemples de LLM qui se mettaient à halluciner, c'est-à-dire inventer des réponses qui n'existaient pas. Comment en entreprise, on arrive à se donner un peu de sécurité là-dessus?
Alors, il y a une partie amusante qui est quand on teste le RAG, en général, on le teste avec un autre système de LLM aussi pour voir qu'il donne une réponse qui est un peu cohérente. Alors, il ne donne pas exactement, on ne peut pas valider qu'il a donné le bon document, mais on a déjà validé qu'il avait donné une réponse cohérente.
D'accord.
Et après, il y a le deuxième sujet où, comment dire, on va essayer de compléter notre prompt, on va indiquer à notre LLM dans ses résultats de nous donner le fichier source avec éventuellement un extrait.
D'accord.
Parce que comment
un peu comme dans les moteurs de recherche auxquels on est habitué, mais cette fois-ci, c'est tout en langage naturel.
C'est exactement ça. Parce que comment on fonctionne quand on fait le RAG, on va pas donner une information exacte, on va faire des dérivés de notre document. On va demander un document qui parle de mathématiques appliquées, et on va lui demander de nous générer plusieurs exemples de ce document, de le réécrire dans différents formats,
d'accord,
pour qu'en fonction de la question, on puisse se dire, ah bah, ça ressemble à un des formats, et celui-là, on sait qu'il correspond à ça. Et à la fin, in fine, on va mettre tout un système en place qui va nous donner la source du document d'origine qui dit, bah voilà, j'ai répondu grâce à ça. Mais ça, c'est un vrai enjeu. Dans la science du RAG telle qu'elle a été pensée, ça n'était pas prévu. On est vraiment dans l'ingénierie logicielle, dans la conception, dans l'ajout de l'ingénieur à une solution qui n'a pas été pensée par le modèle scientifique au départ.
Tout à fait. Bah, c'est le rôle justement des ingénieurs et après des intégrateurs. Du coup, il me vient aussi une remarque peut-être pour mettre ça en avant auprès de nos auditeurs, c'est qu'un RAG, finalement, je comprends dans ce que tu dis que tu peux le brancher sur quasiment toutes sortes de documents, c'est-à-dire à la fois des Word, des emails, des PowerPoint, Point et compagnie, et à partir de là, faire tout un tas d'opérations.
Oui, exactement. Un RAG, c'est ni plus ni moins qu'un processus d'extraction des documents, un processus de conversion du document de son format natif dans un format numérique mathématique, dans un ensemble, dans un tableau de valeurs de nombres.
Ouais.
Et donc cette étape-là, elle est typiquement de l'ingénierie informatique au sens propre du terme, science de l'information. Donc on peut prendre potentiellement n'importe quel document et le convertir à partir du moment où on est capable d'en faire une représentation textuelle. Un exemple bête, on prend une image, si on est capable d'en faire la représentation en disant bah tiens, on a ça ici, on a un oiseau en haut à gauche, etc. On peut tout à fait compléter notre prompt par rapport.
D'accord.
À ça.
Et je suppose qu'il n'y a pas besoin de faire un gros réapprentissage à chaque fois qu'on rajoute un document.
Le but du RAG, en fait, pour utiliser un gros langage de LLM, on a plusieurs méthodes. On récupère le modèle mathématique, on le réentraîne complètement, ce qui demande des puissances de calcul phénoménales que seuls les très gros...
Ça coûte très cher
et les très gros peuvent se faire ça. Soit on fait du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on va réapprendre une partie du modèle, on va vouloir restreindre son vocabulaire, on va lui demander de ne parler que français, on va réapprendre une partie. Et après, on a le RAG qui utilise le modèle et qui va juste compléter le système, le contexte d'interrogation au départ. Et puis après, on a le prompt engineering où là, on fait tout à la main. On tape. Voilà.
Très bien, bah, ça nous amène à notre deuxième question.
Vous avez un message.
Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux donner quelques exemples complémentaires de RAG sur lesquels vous avez travaillé récemment?
Alors, on a deux exemples qui sont plutôt de l'idéation sur un produit qu'on pourrait concevoir à base de LLM et de RAG. Le premier étant, quand on travaille avec des clients, on a l'habitude de faire un découpage globalement en domaine, c'est-à-dire que le client adresse un ensemble de problématiques, et pour être efficace dans la gestion de son SI, on découpe ces problématiques en différents espaces de problèmes distincts.
D'accord.
Par exemple, on va gérer, si on est un retailer, on va gérer le e-commerce, la logistique, enfin ça
peut être le
back office magasin, c'est l'ensemble de domaines métiers. Et quand on reçoit un appel d'offres, comme c'est le cas souvent dans les marchés publics ou autres, on va vouloir répondre. On va être capable de s'engager à fournir une solution. Et donc, cette solution, elle va avoir un impact sur notre système d'information au sens large et donc sur différents domaines. On pourrait utiliser le RAG, et c'était une des idées qu'on avait, utiliser le RAG en disant, j'alimente l'appel d'offres, donc je transcris en prompt,
oui.
Et je mets mon RAG en donnant l'ensemble, la description de mes différents domaines, et le LLM va me dire, par rapport à cet appel d'offres, je vois que ça parle de ça, de ça, de ça, et donc ça va avoir un impact sur ce domaine métier, cet autre domaine métier, et on pourrait même aller jusqu'à se dire, par rapport à ce que je vois, cette solution-là,
ouais.
Tu l'implémentes déjà, cette solution-là, elle n'existe pas chez vous, donc c'est un vrai
donc
assistant.
Ça fait une préévaluation,
préévaluation de
l'ampleur un peu de la charge de travail
c'est
ça. Qu'il va falloir toucher.
Donc ça sécurise le demandeur et le répondant, ouais. Parce que le demandeur, lui, il pourrait l'utiliser également, mais ça sécurise le répondant pour être capable de se dire, je ne réponds pas à côté, je ne m'engage pas sur des choses qui sont irréalistes par rapport à mon patrimoine.
Ouais. Alors, tu parlais aussi d'un deuxième exemple.
Oui, il y a un deuxième exemple qui nous touche. Alors, c'est un exemple qu'on a avec mes collègues ici qu'on voudrait tester. Aujourd'hui, nous sommes une société de conseil, et dans notre société de conseil, on a 4 grands pans d'intervention. On a le développement logiciel, le produit, l'accompagnement
D'accord.
en mode produit, le platform thinking et le dernier, tout ce qui est data IA. Ça nous donne
D'accord.
un patrimoine très important de choses qu'on est capable de réaliser pour accompagner nos clients, et on a une grosse base documentaire aujourd'hui sur Confluence avec ce que font les différentes équipes, et là on pourrait alimenter on aimerait bien essayer en tant que preuve de concept d'alimenter
D'accord.
de prendre notre base de connaissances de l'alimenter dans un RAG et d'être capable de lui poser des questions en disant tiens, est-ce qu'aujourd'hui on apporte ce genre de solution à des clients, et là
D'accord.
qu'ils nous disent oui, ça c'est transverse, parce qu'évidemment on est là, je l'ai décrit comme des verticales.
Ouais.
Ça n'est pas le cas. On travaille quand même tous ensemble. Oui, on adresse ça. C'est adressé en partie par le produit. C'est adressé également par la data. Et donc, ça fournit une solution complète.
Et une petite question que je me posais, c'est est-ce que, à ton avis, là, aujourd'hui, un RAG, sous réserve d'en avoir les moyens, c'est accessible à n'importe quel type d'entreprise dans tous les métiers, n'importe quelle taille d'entreprise? Comment tu vois les choses?
Oui, le vrai enjeu, il est aujourd'hui plutôt au niveau de la souveraineté des données. Alors, on a beaucoup de chance, on est en Europe. Alors, moi, je trouve que c'est une chance, on est bien protégé pour beaucoup de choses, et on a un enjeu de souveraineté des données. Le RAG en lui-même, il est assez simple à mettre en œuvre, enfin à tester.
Ouais.
Après, on a l'enjeu du modèle derrière qu'il faut tourner. Soit faut le tourner localement avec des modèles open source comme Mistral, comme Llama chez Meta. L'enjeu, il est surtout là. Et l'enjeu, il va être aussi au niveau de la capacité de calcul, au niveau de l'inférence. L'inférence, c'est le fait de... Donc, il y a le modèle, on apprend. L'inférence, c'est vraiment le fait d'interroger notre modèle. C'est le runtime.
D'accord.
Et donc, ça va être un enjeu parce que là, tous les cas que je donne, on est vraiment dans un usage plutôt B2B ou un usage interne.
Oui.
On va accompagner nos clients. Demain, une ouverture de ce genre de chatbot en B2C, ça va avoir un impact économique et environnemental qui sera pas neutre, donc RAG ou pas RAG, là il y a une autre question à se poser.
Je veux mettre par exemple un assistant conversationnel sur mon site de e-commerce, du coup là il est ouvert en B2C et il peut y avoir un très grand nombre d'interrogations, y compris des gens qui s'amusent avec pour poser des questions qui n'ont rien à voir.
Exactement, et donc ça va coûter cher en ressources numériques, et donc cher à la planète.
Bien sûr. Très bien, donc probablement aussi on n'est pas arrivé au bout de ces technologies-là, et elles vont devenir plus vertueuses avec la recherche qui continue d'avancer.
Il y a deux mondes qui se rejoignent aujourd'hui. Il y a eu le monde de la data science, on a eu des modèles, on a eu une disruption totale avec une découverte. En fait, le GPT-4, quand il est arrivé, c'est pas une invention, c'est une découverte. On a découvert une capacité de raisonnement qu'on ne soupçonnait pas et qu'aujourd'hui on n'explique pas encore complètement. Et aujourd'hui, on a ce monde de l'ingénierie qui le rattrape pour mettre des choses, déjà optimiser les processus, optimiser les systèmes d'inférence. On essaye de mettre des modèles plus petits, de diminuer le nombre de le dictionnaire de tokens en entrée. Et c'est le rapprochement de ces deux mondes aujourd'hui qui va nous apporter des nouvelles solutions disruptives pour demain.
Donc, ouais, un peu comme quand l'électricité a été découverte, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là ?
Exactement.
Et puis finalement, les usages sont apparus et se sont normalisés par la suite.
Là, les gens ont eu plein d'idées. Et là, aujourd'hui, il y a l'ingénierie qui arrive, qui essaye de dire, bon, on ouvre le champ des possibles en se disant, bah tiens, on va restreindre, on va être capable d'être frugal,
ouais,
de mettre ça dans les mains de tout le monde, et ça va être chouette.
Et du coup, on a fait rebouclé la boucle avec notre premier exemple qui était la distribution de matériel électrique.
Exactement.
Très bien, et ben je te propose qu'on arrête sur cette dernière échange. Merci beaucoup encore Olivier pour ton accueil aujourd'hui dans les locaux d'Octotechnologie à Lille.
Merci à toi.
Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org, à vous abonner à notre podcast et aussi à commenter notre podcast sur votre plateforme préférée. À bientôt.